Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'Étoiles plein les yeux. Cette semaine, les yeux de Mathias et de Clément se joignent aux miens. Quant à la toile, nous y avons vu pour ce 8e épisode le 8e film de Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Pour ceux qui ne se sont toujours pas fait spoiler le scénario, voici une rapide idée de ce qui se passe pendant les 2h47 que dure le film. Tout commence au milieu de la neige, dans le Wyoming. Le chasseur de primes John Ruth est dans une diligence avec Daisy Domergue qu'il amène se faire pendre dans la ville de Red Rock. Après avoir rencontré dans le blizzard le major Marquis Warren, ancien officier noir de la guerre de sécession, et Chris Mannix, fils d'un général sudiste, qui embarquent dans la diligence, ils atteignent la mercerie de Minnie, où attendent déjà d'autres personnages relativement atypiques. Et c'est là que le film démarre vraiment et devient un huis clos dans cette grande pièce entourée de neige et de vent. C'est là aussi qu'on retrouve le Tarantino de Reservoir Dogs, car dans ce huis clos, on parle, on crie, on s'énerve, avec cette verve qu'on connaît au dialogue du réalisateur, et on n'arrête guère de se disputer que pour se trucider de temps en temps. Hors de question que je vous en dévoile plus, et je me tourne sans plus tarder vers Mathias et Clément. Honneur à vous, monsieur le président. Comment s'est passé ce premier contact avec le cinéma de Tarantino?
Alors oui, tu le rappelles, c'était mon premier contact avec Tarantino, je n'avais jamais vu aucun autre de ses films. Et j'ai été conquis et ça m'a donné envie d'aller en voir plus. j'ai trouvé que l'ambiance du film était extrêmement intéressante, que ce soit dans la première partie, on est dans la calèche et où on voit dans les angles de caméra la calèche qui bouge avec les personnages qui parlent. Le contraste avec la deuxième partie en huis clos était quand même très intéressant, très bien fichu. Enfin, on va en reparler, mais voilà, j'ai été conquis.
Bonjour Rémi. Alors oui, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce dernier film, ce 8e film de Tarantino sur les 8 salopards, beaucoup de 8. Et oui, parce que du coup, par rapport à Django et par rapport aussi à Inglourious Basterds, parce que je viens de lire l'article de Positif où qui fait toute une récapitulative de la vision historique de Tarantino. C'est vrai qu'on a une belle évolution sur le rapport à l'histoire et sur un personnage joué par Samuel L. Jackson qui semble évoluer, qui semble montrer une forme de libération. Et je trouvais donc notamment le jeu d'acteur, notamment de Samuel L. Jackson, mais aussi de tous les autres personnages qui viennent supporter le film, assez, assez brillant. Et voilà, aussi par rapport au huis clos, par rapport à ce qu'a dit Clément, je trouvais ça quand même très réussi.
Parce que c'est un film qui dure quand même 2h50. C'est vrai que ça m'a fait un peu peur quand j'ai vu ça, sur les affiches de présentation. Et on ne les voit pas passer. Et c'est quand même assez fort pour un film dont la majeure partie se déroule en huis clos et qui est porté par ses dialogues. Ne pas voir passer ces 2h50 de film, c'est quand même très fort.
C'est surtout que ça pourrait être à double tranchant, parce que même si on sait que Tarantino est un grand dialoguiste, quand même, 2h47 de dialogue, ça peut éprouver.
Mais... Alors justement, j'ai bien aimé le film. C'est vrai que bon, les acteurs sont vraiment très très bons. Tarantino est vraiment très bon dans cette façon d'écrire les dialogues et de filmer ces personnages-là, ces huis clos. Malgré tout, je trouve qu'il y a certains moments où j'ai vu un petit peu des longueurs et des moments où ça traîne un petit peu, où la caméra s'attarde quelques secondes de trop, ou quelques scènes qui durent un peu longtemps, quelques répliques qui tombe un petit peu à vide, et je pense que le faire un petit peu plus court n'aurait pas nui au film en ce sens-là.
Moi, j'ai pas du tout ce ressenti-là, donc j'ai vraiment été porté du début à la fin. Pour être honnête, dès le début du générique, ce Christ filmé en gros plan,
oui, alors ça,
avec
c'est...
la caméra qui s'éloigne petit à petit, quand on, entre cette image-là, ce plan fixe, avec ce générique quand même de début qui est long, avec Ennio Morricone à la musique, bon là, on le sent, l'hommage au western. Dès le début, j'ai été
de
dedans.
Toute façon, oui, de toute façon, c'est que ça reprend clairement tous les codes du western, comme beaucoup de ses précédents films reprenaient les codes du western sans être des westerns. Là, c'est clairement un western, et on est dans le western à 100% avec la musique d'Ennio Morricone qui a eu son Golden Globe il y a quelques jours et qui et qui est vraiment, enfin voilà, c'est Ennio Morricone toujours au sommet de sa forme.
Ah oui.
Musique, il faut le dire à un moment dans cette émission, vaut vraiment le coup.
Oui.
Après, voilà, il y a cette image aussi. Oui, alors les images sont forcément très belles. Bon, on a fait beaucoup de communication et il y a eu beaucoup de débats autour de cette fameuse pellicule en 70 mm. mais au-delà de ça, c'est esthétiquement très réussi. On retrouve aussi l'hémoglobine qu'on aime chez Tarantino.
Ah oui. Oui, ça, il y en a beaucoup. Et enfin, même jusqu'à un point où... Parce que moi, c'est ce que j'ai le sentiment avec Tarantino, c'est que... Certes, il y a du sang, mais c'est tellement outré, il y en a tellement partout, tout le temps. Enfin, il y a des moments où c'est juste un carnage pas possible.
Oui.
Et en fait, il y a un effet de distanciation tellement fort que on n'y croit pas. Et vu qu'on n'y croit pas, personnellement, j'en ris. Enfin,
c'est intéressant. Oui, de toute façon, c'est d'une ironie absolument débordante. Il s'amuse avec ses personnages. Il en fait absolument ce qu'il veut. Il s'amuse avec ses personnages et avec ce spectateur. C'est ça qui fait bien.
Puis avec ses acteurs, parce que quand on voit le personnage féminin...
Elle est impressionnante. Hein.
Non, mais le corps de ce personnage, du début à la fin, il est martyrisé.
Oui.
Elle finit quand même le film avec 100 dents de devant. C'est quand même... Et elle finit avec le visage rouge.
Le visage en sang, oui.
Oui, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il mêlait pas mal d'éléments, parce que on a le huis clos qui fait quand même penser un peu à du théâtre filmé, même si ça n'en est pas.
Oui, c'est très très théâtral.
Ouais. Et il y a un côté aussi très romanesque, parce que du coup, il y a un moment, il y a un narrateur qui arrive en voix off, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir ça, puis on s'y attend pas, puisque ça arrive quand même dans la deuxième moitié du film. Et après, on a tout ce flashback qui vient donc, un peu, montrer un peu le mécanisme qui explique tout le film. Et après, on a toutes les séquences de fiction dans la fiction, avec Samuel Lee Jackson qui raconte, qui passe quand même leur temps à raconter des histoires. Et notamment l'histoire avec l'ancien général sudiste. Et en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou s'il est en train de le mener en bateau.
Ouais, il y a un côté complètement jubilatoire qui fait qu'à un moment, on n'adhère plus. Enfin, on n'arrive plus à adhérer complètement.
Oui, et de toute façon, les personnages se racontent des histoires et Tarantino nous raconte une grosse blague du début à la fin.
Non,
il s'amuse avec nous autant qu'avec ses acteurs et ses personnages.
Non, puis ce moment où, juste après la pause et l'arrivée du narrateur, on nous dit « Mais alors, quelqu'un a versé du poison ?» Et là, tout d'un coup, j'ai entendu Mathias à côté de moi de faire Cluedo. On entre encore dans un autre film.
C'est vrai qu'il y a un côté presque Agatha Christie dans la deuxième partie du film où finalement tous ces personnages se retrouvent ici par hasard ou pas par hasard, sont tous reliés les uns aux autres par des liens aussi bizarres les uns que les autres. Et tout cet écheveau se dénoue brutalement à la fin, quand chacun... Alors, de façon complètement artificielle, c'est Tarantino qui décide de balancer une voix off au bout d'un moment et de faire mourir plein de gens. Mais
du coup, là, tu viens de citer Agatha Christie et ça m'a fait penser, parce que bon, il y a quand même tout le discours sudiste, raciste, et ça m'a fait un peu penser au Dix Petits Nègres d'Agatha Christie, où en fait, on a tous les personnages qui finissent par mourir les uns après les autres,
parce qu'on sait
qu'ils sont coupables de quelque chose, et en fait, ils sont tous à peu près coupables de quelque chose, d'où le titre Les 8 salopards. Oui. Et en fait, finalement, c'est la version un peu outrée d'Agatha Christie. Mais...
c'est aussi presque une reprise de Reservoir Dogs, son premier film. C'est intéressant de remarquer ça aussi. Enfin, Tarantino fait faire vraiment un retour sur son cinéma. Alors, ça a pu lui être reproché par pas mal de critiques qui disent qu'il tombe dans la boursouflure, qu'il s'écoute écrire les dialogues, qui se contente de filmer du Tarantino, que c'est une autoparodie. Je pense que c'est une autoparodie, mais il y a un côté très très jubilatoire et vraiment ludique jusqu'au bout dans cette façon de se parodier lui-même, de parodier les westerns et de toujours faire des références à une multitude de choses dans l'histoire du cinéma qui fonctionne assez bien.
Moi, sur l'ambiance du film aussi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que, je sais pas pour vous, moi je suis passé par de multiples émotions pendant ce film. Mathias, tu m'as vu me recroqueviller petit à petit dans mon fauteuil au fur et à mesure que le film avançait. Outre les moments jubilatoires où ça tire dans tous les sens, où on se prend des révélations en pleine gueule et on sait pas trop quoi en faire, il y a aussi des moments où j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment touchants. Je pense à ce moment vraiment à la toute fin du film où Channing Tatum sort et puis il sort de sa trappe, il est les mains en l'air, il va se faire exploser le crâne dans 2 minutes top chrono. Il se tourne et il regarde Domergue, sa sœur, et on a juste des plans sur leur visage, eux qui sont en train de sourire. Enfin, j'ai Non, mais
oui,
juste,
un très beau chant contre chant, complètement silencieux. Là,
et juste avant qu'il se fasse exploser le visage. Mais j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que tout d'un coup, il y a un peu d'amour qui apparaît là-dedans, un peu de lien humain pas frelaté, quoi. Et ça apparaît alors qu'on a déjà tué plein de gens et que tous les personnages sont plus pourris les uns que les autres. Enfin, j'ai trouvé ça... Il y en a eu quelques autres comme ça, mais ce moment-là en particulier m'a beaucoup touché.
Il y a ça aussi, et puis en lien avec tout ce que ce film a avec l'histoire de l'Amérique, l'histoire des États-Unis, il y a aussi ces deux personnages, cet ancien esclave libéré noir et le fils d'un général sudiste, qui par définition ne peuvent pas se supporter... De toute façon, c'est lui salopard dans cette espèce de grange-là. C'est un petit peu tout ce qui a fondé les États-Unis. C'est vraiment ce produit de la guerre de sécession, ces luttes intestines, ces haines, tout ce paradoxe qu'est les États-Unis. Et qui finissent par être les deux que l'on voit à la fin, qui vont plus ou moins mourir dans les bras l'un de l'autre.
Et je trouve ça intéressant parce qu'au début, quand ils rentrent dans la mercerie, ils essaient un peu de diviser la mercerie en fonction des États-Unis. Pour oui. En gros, on met tous ceux qui sont du sud d'un côté, on met tous ceux qui sont du nord de l'autre, et vous ne vous rencontrez pas. Il y a la zone neutre qui est la table à manger. Et finalement, à la fin, bah, tout éclate et finalement, il n'y a plus de séparation qui va. Et du coup, pour revenir là-dessus, il faut même le regarder en VO, ce film.
Ah oui.
Pour avoir un bon échantillon de l'accent du sud des États-Unis. Qui vaut son pesant de cacahuètes.
Oui, et puis la gouaille de ces personnages ne peut pas être traduite. Enfin, déjà, dans l'absolu, regarder un film en VF est un crime, mais alors celui-là, c'est... Non. De toute façon, on pourrait épiloguer pendant un petit moment. C'est un film qui tient d'abord beaucoup par le jeu des acteurs. C'est vrai que c'est presque du théâtre à partir du moment où on tombe dans cet huis clos. Et puis de toute façon, la première partie est un huis clos dans une calèche. Mais donc, c'est vraiment le scénario et le jeu d'acteurs qui portent le film. Et à ce titre-là, je pense que la meilleure chose à faire pour vous convaincre de tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce film est peut-être tout simplement d'aller le voir en VO. Donc, au plus proche cinéma. Il est toujours en salle au CNP Bellecour, L'étreinte du serpent du Colombien Chiro Guerra. Raconte l'histoire d'un chef amazonien, dernier survivant de son peuple, qui décide d'accompagner un blanc dans sa quête d'une plante sacrée à travers la forêt. Et forcément, livrer deux hommes à toute cette immensité qu'est l'Amazonie, c'est les livrer à eux-mêmes, à leur passé, est la déperdition la plus totale. Filmé dans un noir et blanc grandiose, le film est une utopie, un grand film monde, écrivent les Inrocks. C'est la sortie de la semaine dernière, Carole de Todd Haynes. On est à New York dans les années 50, la veille de Noël, une grande et belle dame blonde oublie ses gants sur le comptoir du magasin de jouets où travaille Thérèse, laquelle saute sur l'occasion pour faire connaissance avec cette troublante Carole. C'est l'histoire d'une dévastatrice histoire d'amour entre les deux femmes, emprisonnées dans la rigidité de leur société, qui a valu à Rooney Mara un prix d'interprétation féminine à Cannes et fait l'unanimité de la critique. À ne pas rater donc, nous vous livrerons nos analyses dès la semaine prochaine sur ce film. Enfin, pour les amateurs de loufoquerie et de satire, Gaz de France fait de Philippe Catherine un président de la République venant de précipiter sa chute dans les sondages, qui tente le tout pour le tout pour réussir à regagner la confiance de son électorat et réunit les conseillers les plus disparates pour en discuter. C'est un huis clos absurde, bizarre, caustique, qui délivre une satire corrosive contre la classe politique. Et avant de se dire au revoir... On va parler encore une fois du Festival Cinéma Télérama qui fait repasser en salle les films qui ont marqué l'année dernière. Cette semaine, on va parler de Birdman, de Alejandro González Iñárritu, que tu as vu, Clément.
Oui, je l'ai vu l'an dernier au cinéma quand il est sorti. Alors, j'avais beaucoup aimé ce film, notamment pour sa particularité de réalisation qui fait qu'on a l'impression que c'est un immense plan-séquence d'une heure cinquante ou deux heures.
Oui, et après, à côté de ça, c'est vraiment un très très bon film avec d'excellents acteurs, une histoire vraiment, vraiment très très intéressante. Le film est mené tambour battant du début jusqu'à la fin, c'est vraiment l'un des grands films de l'an dernier.
Ce décalage complet entre... la réalité, la fiction, les moments où il délire, où il délire pas.
En effet, il faudra donc se jeter sur Birdman dès le 20 janvier. Le festival Cinéma Télérama se passe dans un certain nombre de salles en France, dont le Comédia, pas très loin d'ici. D'étoiles plein les yeux, c'est fini pour cette semaine. Vous pourrez retrouver nos anciennes émissions sur la page de Transistor, où vous pourrez aussi découvrir qu'il faut absolument voir au-delà des montagnes. Merci donc à Clément et Mathias pour cette semaine, et à bientôt sur Transistor.